Aujourd'hui, la lecture du jour. Un livre qui s'appelle « Le goût du désamour » qui est écrit par Delphine Solaire et qui est paru aux éditions La Musardine. Un livre que j'ai adoré lire. Bon, même si, j'avoue, je dois avoir un petit problème. La fin m'a laissé comme un léger goût d'amertume. La fin est assez réaliste. Au final, c'est chouette, mais bon, lisez-le en entier, vous comprendrez. Je vous lirai pas la fin, bien entendu. Mais je crois que j'ai définitivement un côté fleur bleue, c'est une catastrophe. Enfin bon, ce n'est pas grave. De quoi ça parle, le goût du désamour? Eh bien, le goût du désamour, c'est l'histoire de Delphine, une jeune femme qui, à 20 ans, s'est mariée avec une célébrité de la radio beaucoup plus âgée qu'elle. Elle s'est mariée parce qu'elle avait peur de la misère et elle s'est mariée avec un homme dont elle n'était pas franchement amoureuse, même pas du tout, mais qu'elle appréciait. Et bah du coup, ça lui a amené la sécurité. Par contre, niveau cul, c'était juste naze, super naze. Et puis à 30 ans, un jour, elle se rend compte que sa vie, elle est bien vide en fait. Alors, elle a de l'argent, mais elle n'a pas de boulot, elle n'a pas de passion, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de désir non plus. Et là, elle n'en peut plus. Donc, elle se dit, je vais quitter mon mari. Allez, tant pis, je saute dans le vide. Et en fait, il se trouve que... il va y avoir un petit accident et elle va laisser mourir son mari devant elle. Donc elle ne le tue pas, mais enfin elle ne le sauve pas non plus. Et à partir de là, va commencer tout un chemin vers la découverte d'elle-même et de son désir qu'elle n'a jamais connu en fait. Elle va découvrir ça à travers plein de plaisirs avec des hommes, des femmes, côtoyer le milieu du libertinage. Et puis à côté de ça, elle reçoit des poèmes amoureux et délicieux d'un admirateur inconnu. Il y a en même temps l'enquête de police qui se resserre autour de la mort de son mari. Bref, dans ce livre, moi ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'il y a à la fois de la réflexion sur c'est aussi quoi l'amour, c'est quoi les concessions qu'on est prêt ou prête à faire pour de la sécurité et jusqu'à quel point ça suffit, jusqu'à quel point ça suffit plus du tout. Et puis bien sûr il y a du sexe, c'est très très bon comme c'est écrit, il y a du suspense, vraiment je vous le conseille. Si vous voulez vous l'offrir, eh bien il est disponible dans toutes les bonnes librairies, sinon vous allez faire un tour sur lamusardine.com. C'est Le goût du désamour de Delphine Solaire. Allez, on est parti. Je vais commencer par vous lire en fait le tout début. Moi, j'aime bien les débuts des livres. J'aime bien voir si ça me donne envie de lire la suite. Et bien, celui-là m'a follement donné envie de lire la suite et j'avoue que je l'ai un petit peu dévoré. La lecture du jour, c'est Le goût du désamour, écrit par Delphine Solaire et c'est paru aux éditions La Musardine. C'est parti. Le goût de la liberté m'a prise un jour d'été, il y a 10 ans aujourd'hui. Un désir de vivre enfin. Un désir égoïste et froid m'a envahi soudain, irrépressible et envoûtant. Il y a 10 ans, j'ai commis l'irréparable, l'inexcusable, l'immonde. Tout et tous qui me lisaient maintenant me condamneraient à juste titre lorsque je vous aurais raconté mes intimes confidences. Vous aurez raison, je m'en fiche. Je ne regrette pas mes décisions ni leurs conséquences. Je ne dis pas que parfois... il ne me vient pas des idées de culpabilité, d'amertume ou de dénigrement de moi-même, mais de regret ? Non. Il y a 10 ans, j'ai laissé mourir de sang-froid mon mari, Jean-Jacques Louvrier, animateur vedette sur la tranche matinale d'une radio nationale, grand reporter de bureau, écrivain médiocre mais apprécié de ses auditeurs et singulièrement de ses auditrices. L'idée de me débarrasser de mon mari m'est venue le matin même de ce fameux jour, le samedi 14 septembre 2002. Il était 11 h, nous étions sur la plage du Touquet, où Jean-Jacques possédait une maison de famille. L'été avait joué les prolongations, mais il y avait peu de touristes et de plagistes à part quelques gamins du coin venus en bande faire un beach volley. J'étais assise sur le sable, occupée à admirer la mer et les exploits lointains des véliplanchistes. Le ballon des jeunes gens vint à rouler vers moi jusqu'à me toucher la jambe. Un homme d'une 20aine d'années s'est penché en s'excusant de la gêne occasionnée. J'ai souri naturellement. Il m'a regardé intensément. Il était beau et jeune et il a chuchoté dans son mouvement. « Vous êtes seule, mademoiselle ?» Sa question m'a surprise et embarrassée. Cela faisait si longtemps que l'on ne m'avait pas parlé ainsi. J'ai hésité. « Non, je suis avec mon mari. » Le garçon est reparti vers ses amis qui l'attendaient sur le terrain. Je suis restée un instant interdite et confuse. J'ai regardé avec amusement d'abord, puis terriblement ému les jolies fesses de ce jeune homme qui paraissaient dures et musclées à travers le short étroit qui les étreignait. Ce n'était pas réellement du désir, mais plutôt le sentiment d'une injustice qui m'était faite par la vie. Mon regard s'est alors tourné vers Jean-Jacques. Il se tenait debout en maillot de bain face à la mer, contemplatif. Il m'est soudain apparu comme je ne l'avais jamais vu. Un vieux bonhomme, les jambes maigres et parcourues de veines proéminentes, des fesses tombantes, un bide débordant et mou, une poitrine trop petite, un visage ridé sur un cou flasque. Qui était-il ce type usé, dégringolant de graisse et de régime successif ? Qui était-il cet homme qui luttait inutilement contre le temps en bronzant sous des lampes et en s'implantant des cheveux artificiels ? Qui était-il encore pour moi, maintenant ? Mon mari ou mon compte en banque ? Un homme ? Ou une sécurité tranquille ? Mieux encore, l'assurance de l'opulence ? En tout cas, il n'était plus le Jean-Jacques Louvrier dont j'étais tombée amoureuse comme des millions d'autres petites sottes des années 90. Le présentateur encore bien conservé, sous un maquillage habile qui avait su fédérer autour de lui 7 millions d'auditeurs et d'auditrices au quotidien. J'ai fermé les yeux une minute. Je les ai rouverts sur le spectacle de la mer et de ma propre dérive. Ma décision était prise, irrévocable et définitive. J'allais quitter Jean-Jacques aujourd'hui parce que je ne pouvais pas faire autrement. Le hasard a voulu que les choses ne se passent pas aussi simplement que cela. De retour à la villa, j'étais étonnamment calme et sereine. Déterminée, j'allais le quitter pour la simple raison que je n'avais plus envie de lui. Je n'avais pas encore de stratégie précise pour lui annoncer ma décision, mais l'image du jeune homme entrevu le matin me guidait et me donnait cette force étrange qu'ont parfois les femmes quand elles jouent leur survie. Les plus douces mettent parfois un an ou deux pour parvenir à leur fin, multipliant les précautions et les tentatives d'explications enjolivées. Les plus dures lâchent le morceau un soir, entre la poire et le fromage, sans embâge, de manière définitive. Je ne savais pas encore quelle femme j'étais. J'allais le découvrir avec éclat. Comme chaque week-end, nous avons déjeuné au bord de la piscine, puis Jean-Jacques a travaillé sous la pergola son prochain livre sur la sécurité, destiné aux personnes âgées. Je me suis allongée sur un transat. La vie m'est apparue soudainement ouverte et merveilleuse. Je ne pensais pas à la stratégie qui allait être la mienne pour présenter au mieux ma décision à Jean-Jacques, mais bien plutôt à l'avenir qui s'offrirait à moi après notre séparation. J'avais beaucoup de temps à rattraper et beaucoup de plaisirs à prendre. Pour la première fois depuis plusieurs années, j'ai senti mon corps se réveiller doucement, comme après une longue anesthésie. Pour le petit volleyeur, je n'avais sans doute été qu'une tentative parmi tant d'autres, mais il m'avait permis de passer de l'autre côté de la rive. J'avais déjà senti le désir dans le regard des hommes, mais rarement avec autant de naturel et de désinvolture. J'avais beaucoup de mal à ne pas revivre la scène où il m'avait interpellée. Il m'avait vraiment draguée comme une minette, les yeux cherchant à comprendre ce que les mots ne peuvent pas dire. Puis il était parti. C'est étrange un regard, quand le désir est là, sournois, masqué mais littéralement envahissant. Sa voix m'envoûtait encore, certes, mais l'image de son petit cul me poursuivait aussi. Je me voyais tenir ses fesses, les caresser à travers son short chamarré. Cela, je ne me l'expliquais pas. Ce n'est pas dans ma nature, comme je l'aurais dit volontiers avant à mes amis. À mesure que mon esprit s'évanouissait dans les souvenirs de cette plage au matin, ma main s'était rapprochée du haut de mes cuisses. D'où il était, attablé devant son ordinateur, Jean-Jacques ne pouvait pas me voir. Je frottais un doigt sur le maillot dont la toile s'insinua légèrement dans la fente de mon sexe. J'insistais en pressant plus fort. Je restais immobile, l'index fiché très voluptueusement entre les lèvres entrouvertes par le tissu. Je sentis s'humidifier peu à peu la culotte. Mon Dieu, il y avait bien longtemps que je ne m'étais pas caressé la chatte de cette manière. Le garçon, maintenant, avait baissé son short et je voyais nettement les globes de son cul et sa raie très noire et profonde. Il me laissait glisser les doigts dans ce trésor chaud. Ma main, elle, s'agitait maintenant sur mon con. Les grandes lèvres de mon sexe étaient largement sorties de chaque côté de mon maillot trop serré. Je sentais venir la chaleur de l'amour et une sorte de précipitation de ma respiration. Au moment précis où mon imagination me laissait voir la queue longue et dure de mon sportif, sortie malgré elle de son short, je pressais violemment sur ma chatte et ressentis un profond plaisir, comme une blessure à l'arme blanche qui m'emportait de lascivité. Je restais la main crispée sur mon sexe pendant quelques secondes, tendue, oublieuse des bruits de la vie, avant de retrouver mon calme, surprise encore de mon audace et de ce désir soudain de jouir. Très vite, je plongeai dans la piscine pour cacher au moins à Jean-Jacques les taches grasses qui maculaient mon maillot de bain. Plus tard, comme chaque dimanche, Jean-Jacques s'est fait le sempiternel devoir de cuisiner une tarte aux abricots comme la faisait sa grand-mère. Ce qui m'avait amusé pendant des années m'énervait maintenant systématiquement. Les clowneries, les grimaceries, les imitations de Brassens et de Giscard, les jeux de mots systématiques, tout m'exaspérait. Ce qui était la tarte du dimanche fabriquée avec amour par un mari prévenant devenait un gâteau ridicule préparé par un vieillard obsessionnel. À cet instant, j'ai su exactement que j'allais être le type d'épouse qui ne s'embarrasse pas de convenances pour dire la crudité de la séparation. Cela ne prendrait pas 6 mois, ni 6 semaines, ni 6 jours. Je ne me coucherai plus à côté de cet homme-là. Plus jamais. Plus jamais. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en imaginant la tête de ce parangon de vertu lorsque je lui annoncerai ce soir, ou demain peut-être, que je reprenais ma liberté. J'ai répété en silence quelques phrases définitives et ridicules, histoire de me préparer à l'affrontement à venir. « Jean-Jacques, j'ai décidé de te quitter car je m'emmerde avec toi. » « Jean-Jacques, j'ai décidé de te quitter car tu as le cul trop mou et la bite qui tombe dans les chaussettes. » « Jean-Jacques, j'ai décidé de te quitter car tu ne joues pas au beach volley avec un short qui te moule les fesses. » « Jean-Jacques, je te quitte car je déteste ta putain de tarte aux abricots qui me rappelle ta mère que je haïssais. » J'ai ri franchement. Oh, pas de souci, je trouverai au moment voulu. « Qu'est-ce qui te fait rire, Delphine? Mon imitation de Bourvil ?»« Oui, c'est exactement cela. » Vers 19h, il faisait encore bon et chaud. J'ai proposé à Jean-Jacques, qui avait cessé de surveiller la cuisson de sa tarte, de me rejoindre dans la piscine. C'était certainement le dernier bain de l'été. L'heure de la révélation avait sonné. J'étais forte. Il est venu, souriant et fier de lui. « C'est près dans 10 minutes. Les abricots ne sont pas extra en cette saison, mais ça ira bien. » Il a plongé et a commencé ses longueurs acharnées, les seules preuves tangibles de son éternelle jeunesse. Je suis sortie, prétextant une brusque envie de faire pipi, et j'ai rejoint la cuisine. Tout était dans le désordre normal d'un homme qui fait de la pâtisserie. Je me suis appuyée de toutes mes forces contre la table et j'ai respiré plusieurs fois très fort. Je me suis emparée du rouleau à pâtisserie qui était là, je l'ai brandi comme s'il s'agissait d'une arme, puis je l'ai reposé. J'ai répété en murmurant une phrase qui me semblait naturelle. « Jean-Jacques, j'ai quelque chose à te dire qui ne va pas te faire plaisir. » Je suis sortie. Jean-Jacques nageait son crawl comme une marionnette articulée. Je me suis assise sur le bord du bassin, les pieds dans l'eau. Je l'ai laissé faire encore 2 longueurs, puis, quand il est arrivé à ma hauteur, je me suis penchée vers lui pendant son virage. « Jean-Jacques, j'ai quelque chose à dire qui ne va pas te faire plaisir. » Il est reparti pour 2 fois 12,50 m, il est revenu. « J'ai décidé de te quitter, de divorcer. » J'ai eu le sentiment que cela ne l'avait pas marqué. Il est reparti pour 1 longueur, mais vers la moitié du bassin, je l'ai vu lever la main comme pour me faire signe de le rejoindre. Son attitude m'a étonnée. Je n'ai pas immédiatement compris qu'il était en détresse. Cela paraît si ridicule dans une piscine privée. J'ai fait le geste de glisser dans l'eau à mon tour, mais un étrange sentiment m'a retenu. Inexplicable à froid, mais terrible. Je me suis levée, le regard fixé sur cet homme qui semblait se débattre contre une force invisible et secrète qui l'attirait vers le fond. Je le voyais, essayer de maintenir sa tête hors de l'eau, mais aussi peu à peu s'étouffer et perdre conscience. J'ai fait demi-tour en direction de la maison. J'ai fermé la porte-fenêtre pour ne plus entendre les bruits de l'eau et les grognements effrayés de Jean-Jacques. Je tremblais, partagée entre l'horreur et ma capacité inexplicable à rester calme et rationnelle. Je me suis fait peur en ne pleurant pas, en ne criant pas. J'ai avalé une rasade de Porto. La sonnerie du four a tinté, indiquant que la tarte aux abricots était à point. J'ai été prise d'un fou rire absurde et déplacé, mais inextinguible. Après m'être calmée, je suis retournée au bord de la piscine. Jean-Jacques avait fini de se battre contre son destin. Il flottait, les bras écartés, à quelques centimètres sous la surface de l'eau. Son corps remuait au rythme du souffle du vent. Je suis restée là à me mordre la lèvre inférieure, 5 minutes au moins, sans penser, sans idée, comme vidée après une terrible épreuve ou un accident de la circulation. Puis peu à peu, mon esprit a repris ses droits sur ce moment d'inconscience. J'ai su qu'il fallait inventer un stratagème pour que tout ceci reste un accident de piscine d'un homme de 60 ans. Un accident comme il y en a tant chaque été en France. D'ailleurs, était-ce autre chose ? Voilà, c'était le premier extrait de « Le goût du désamour » de Delphine Solaire. Je vous l'avais dit, ça commence fort et tout le livre est rythmé à la fois de retour sur sa vie, sur ce que c'était, sur quel rôle elle a joué, quel choix de vie elle a fait et comment à un moment donné c'est juste plus possible de se nier et que l'argent ne remplace pas tout. Et c'est ponctué de scènes fortement érotiques, je vous l'assure. Allez, un nouvel extrait dans quelques instants. Alors si vous arrivez en cours de route, le livre dont je vous lis des extraits aujourd'hui, c'est « Le goût du désamour » de Delphine Solaire, qui est paru aux éditions La Musardine, un livre que vraiment je vous conseille de lire, je l'ai vraiment trouvé excellentissime et je me suis régalée. Le pitch, très très rapidement, Delphine à 20 ans s'est mariée avec Jean-Jacques Louvrier, pas tellement par amour, mais plutôt par praticité, comme un moyen de sortir de sa condition sociale assez pauvre et d'embrasser une vie de luxe. Et puis, 10 ans après, elle décide de quitter son mari et c'est ce que je vous ai lu dans la première partie. On a vu comment elle l'avait juste regardé mourir sous ses yeux. Si vous êtes intrigué, si vous n'avez pas entendu la première partie et que vous voulez l'entendre à tout prix, pas d'inquiétude. Le podcast sera disponible dans très peu de temps sur mon site charlie-liveshow.com. Sur le même site, vous pourrez d'ailleurs retrouver le podcast de toutes mes précédentes émissions. Les lectures érotiques de Charlie, le hashtag de l'émission, c'est hashtag LEC. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Et si vous avez envie de lire le livre dans sa totalité, ce que je ne saurais que trop vous conseiller, vous allez faire un tour sur le site lamusardine.com et là, vous allez trouver votre bonheur. Allez, on continue, je reprends la lecture. On a beaucoup avancé, mais c'est pas grave, hein, je pense qu'on va comprendre de quoi il s'agit. Le goût du désamour de Delphine Solaire, paru aux éditions La Musardine. Le deuxième extrait, ça commence maintenant. Depuis que j'avais évoqué la docilité de José, Myriam n'avait qu'une idée en tête. Faire de ce pauvre garçon un esclave pour une soirée coquine. Le terme même d'esclave me mettait horriblement mal à l'aise. Il contenait en soi une forme d'exploitation humaine qui, sans doute, renvoyait à ce que j'avais perçu enfant de ce que vivait ma mère, pauvre et corvéable au gré des patrons, d'autant que Myriam avait la ferme intention de proposer une petite somme d'argent à José pour le remercier de sa participation à notre plaisir. Je sais que je n'avais pas de leçons à donner en termes de morale. J'avais parfaitement conscience d'avoir moi-même été une sorte de pute de luxe pendant toutes ces années avec Jean-Jacques, encore que le sexe n'ait pas été réellement la monnaie d'échange entre nous. J'étais plutôt la ravissante idiote aux côtés de la vedette. Celle que l'on sort dans les grandes occasions et qui sert de caution. De caution ? Mais de quoi ? Quelle caution apportais-je à cet homme reconnu, envié, parvenu ? Cette question m'a souvent perturbée. Si Jean-Jacques ne m'aimait pas, et j'en ai la quasi-certitude, quel intérêt avait-il à passer ses nuits à côté d'une femme qu'il ne touchait pratiquement jamais ? S'il s'agissait simplement de se faire lécher les couilles de temps en temps, n'importe quel professionnel aurait fait l'affaire, et s'il voulait donner au monde entier l'impression qu'il était encore un citoyen lambda, marié et chargé de famille, alors pourquoi moi ? Si jeune, si exigeante, si inexpérimentée dans le monde de la bourgeoisie et de la bienséance. On peut comprendre un coup de foudre, une folie amoureuse, mais là, tout semblait terriblement bien calculé, huilé, préparé. Je n'étais pas une rencontre de hasard. J'étais la bonne personne, au bon moment, dans un objectif qui m'échappait et m'échappe encore. J'ai plutôt été le jouet consentant d'un homme qui avait besoin de moi, tel que j'étais. Parfois, j'ai essayé d'aborder cette question avec lui. Il éludait rapidement le problème en me demandant si j'étais heureuse ou si je manquais de quelque chose. Je ne manquais de rien. Trop de chaussures, trop de fourrures, trop de bijoux, trop de parfums, trop de soirées au bar du Georges V et de week-end à Saint-Tropez. Je ne manquais de rien. Bien des prostituées auraient refusé mon rôle d'épouse béate et satisfaite. Donner son corps, oui. Donner son âme, sa liberté et sa jeunesse, c'est autre chose de bien plus compliqué. C'est pourtant bien l'argent qui m'avait motivée. Le goût pour tout ce dont j'avais manqué et dont je rêvais, l'amour du clinquant et de l'artificiel, la course après l'inaccessible monde des riches, comme on me le montrait adolescente dans les émissions de M6 sur les hôtels de luxe et ses poupées bronzées dans des piscines. Toutes des putes alors. Myriam, José n'est pas une putain, on ne va pas payer sa prestation comme si l'on était de vulgaires clients. Non, bien sûr, il a envie de venir baiser deux belles minettes et crois-moi, il aime être dominé. Je connais ce genre de mec. J'en ai rencontré à l'appel. Il y en a même qui payent pour se faire malmener. Celui-là va nous obéir, et pour le remercier, on lui offrira un petit dédommagement. Il est ouvrier dans une conserverie, c'est bien cela? Oui. Eh bien, nous allons améliorer son ordinaire. Ce n'est pas sympa, ça. Mais il n'empêche qu'on l'achète. On l'achète parce qu'il est pauvre. Il aurait été riche, il serait venu gratuitement, et tu ne te serais pas posé toutes ces questions. Comme dit souvent Guelfi, le problème ce n'est pas le sexe ni le corps tarifé, c'est la pauvreté. Tu trouves moins immonde d'aller vendre sa force de travail et sa santé dans des mines de cobalt ou de diamants que de donner son cul? La prostitution te dérange car il s'agit de ce sexe que l'on a sacralisé depuis les curés jusqu'aux féministes, mais pour ma part, je préférerais toujours sacrifier 10 cm carrés de peau, même fendue, et épargner tout le reste. Comprends-tu? La démonstration de Myriam ne m'avait pas entièrement convaincue, mais je dois reconnaître que son couplet sur la sacralité du sexe résonnait à mon esprit avec beaucoup de pertinence. « Tous des putes, alors ?» Nous nous sommes resservis un verre de champagne. J'ai appelé José. Il était heureux de me retrouver et plus heureux encore qu'une copine se joigne à nous. Il m'a proposé de venir le soir même. J'ai hésité, mais les mimiques très explicites de Myriam m'ont persuadé d'accepter. J'ai raccroché entre angoisse et désir. Il nous a suffi d'attendre, entre un verre de Porto et un petit pétard d'herbe fraîche. Myriam était étendue sur le tapis, rebattant pour la 100e fois au moins les cartes de sa réussite. Ses grosses fesses tendaient le cuir de sa jupette. Elle ne s'était pas embarrassée d'une culotte, certaine de l'enlever rapidement en soirée. Je voyais les deux globes de son joli cul jouer l'un contre l'autre tandis qu'elle faisait des mouvements de balancier avec ses jambes. J'aurais aimé avoir le détachement de Myriam face à la vie, au sexe, aux règles de la bienséance. C'était comme si la quête du plaisir justifiait tout, excusait tout, permettait tout. L'orgasme comme ultime horizon et raison de vivre. L'orgasme simple, avec le doigt, le coin de la table, la selle du vélo, la vibration de la moto... Et l'orgasme complexe avec les hommes par dizaines, des langues dans le cul, des artifices, des couleurs, des cris et de la sueur. Quelle éducation peut conduire à faire une Myriam? La vie dans les grottes retirées de l'Ardèche? La jeunesse en foyer de l'aide sociale à l'enfance? Je n'ai pas eu le temps de poser la question à ma petite amie. La sonnerie de la porte a tinté. C'était José. Notre invité! Myriam s'est levée d'un bond. Tu veux dire notre esclave, Delphine? Laisse-moi faire. Tu me remercieras. Je suis allée ouvrir à notre ami qui était embarrassé d'un bouquet de fleurs. Je lui ai présenté Myriam. Ils se sont embrassés comme de vieux amis. Pendant que je cherchais un vase, j'ai vu que tous les deux échangeaient avec moult gestes et sourires complices. Puis j'ai demandé à José d'aller chercher une vodka de son choix à la cave. J'avais pris bien soin de vérifier que la porte d'accès était fermée. Pas de doute, il avait le code secret. J'ai chuchoté à l'oreille de Myriam. « C'est dingue! Comment c'est possible ?»« Il est déjà venu. Peut-être ton mari organisait-il des partous et tu n'en savais rien ?»« Tu rigoles, il bandait quand il avait le temps. Avec toi ?»« Je te remercie, salope !» José est remonté, une bouteille de Stolichnaya à la main et trois verres givrés. Nous étions hilars. « Pourquoi riez-vous comme ça ?» Myriam ne m'a pas laissé répondre à la question, elle a enchaîné. « Pourquoi ?» Mais parce que l'on vous imaginait à poil, à quatre pattes en train de nous servir à boire. Le jeune homme a compris l'allusion. Il s'est déshabillé là, sur le tapis du salon. Quand il a été nu, entièrement nu, il s'est agenouillé, puis s'est mis dans la position requise. Myriam m'a entraînée vers le canapé, me contraignant à m'asseoir à ses côtés. Elle a commandé d'une voix ferme. « Serre-nous, et vite !» José a rempli 3 verres de vodka, puis a marché à 4 pattes vers nous. Il a posé les verres sur la petite table basse et s'est assis sagement. Nous avons trinqué. Il nous a resservi. Soudain, Myriam a écarté les cuisses en se calant au fond du canapé. « Viens, viens lécher ma chatte, viens là !» J'ai sans doute été la seule à ressentir un petit malaise à cet instant, car le garçon, sans se faire prier, est venu faire ce qu'on lui demandait. À genoux, il a glissé son visage le long des cuisses de ma camarade de jeu et s'est planté la langue dans son sexe, dans un bruit de succion exagérément démonstratif. J'aurais bien voulu regarder ailleurs, me réfugier dans mon apéritif russe ou continuer la lecture de l'amant de Duras, mais j'étais littéralement fascinée par ce que je voyais. Moins par le crâne de José qui s'agitait devant le sexe de Myriam, que par la perspective originale que j'avais sur le bas du dos du jeune homme et la naissance de son derrière, comme 2 bosses mouvantes et musclées. Je ne pouvais détacher mon regard de ce balai irréel. J'aurais voulu qu'il se tourne un peu de quelques degrés pour que je voie de profil la ligne sombre de l'arête de son cul. J'ai tenu 5 minutes peut-être sous les glouglous indécents de l'un et les « Oh mon Dieu !» blasphématoires de l'autre. Puis j'ai craqué comme malgré moi. « Tourne-toi un peu, José, tourne-toi, oui, encore un peu. Voilà, c'est bien là, ne bouge plus. » José avait obéi sans rechigner, se cambrant plus encore. J'ai glissé ma main sous la toile de mon jean ajusté. Mon sexe était déjà comprimé par le tissu rigide du pantalon. Le simple mouvement de mes doigts sur mon pubis faisait frotter un peu plus la couture épaisse sur mon clitoris. Myriam a joui en m'agrippant le bras, tandis que José se caressait lentement la queue. À peine remise de ses émotions, Myriam, sans même remercier son habile lécheur, a repris son rôle d'adjudant. « Tu vas lécher le cul de Delphine maintenant. » Elle m'a regardé. « Déshabille-toi. Mets-toi en position. » J'ai fait en un instant ce qu'elle me demandait, comprenant du même coup qu'il est parfois beaucoup plus facile d'obéir à un ordre que de décider soi-même, ce qui n'était pas a priori ma philosophie de femme. Obéir, c'est se déresponsabiliser de ses actes, ce qui tombait plutôt bien à cet instant où je rêvais de sentir une caresse sur mes fesses. Je me suis prosternée sur le canapé, offrant un cul large et accueillant à notre invité. Il s'est jeté dessus, langue en avant. Il a d'abord mouillé mon cul de sa salive en léchant comme un animal assoiffé toute la surface de mes fesses. Puis il s'est concentré sur le trou, allant et venant, du haut en bas, essayant de forcer l'entrée bien close. J'entendais Myriam lui donner des ordres de sa voix ferme et presque sans émotion. « Là, là, tu n'as pas encore la paix, là. Je dois le faire ou bien ?»« Dans le trou de son cul, vas-y, enfile ta langue. Je veux la voir rentrer, et toi, pousse. À quoi a servi notre travail ? Pousse, qu'il t'encule !» J'obéissais bêtement aux ordres, sans discuter, sans rechigner, heureuse de les entendre et heureuse de m'y plier. José a continué à me manger l'anus, que j'ouvrais timidement sous les injonctions de la maîtresse de cérémonie. Concentrée que j'étais sur mon propre plaisir, j'entendais néanmoins les commentaires de ma camarade. « Mais toi aussi, tu as un beau cul, mon salaud, et bien ouvert avec ça. Tu dois aimer te faire enculer, non ? Non, je vais t'enculer, moi. » J'ai entendu Myriam s'éloigner de nous. Elle a dû prendre sa mallette secrète, elle est revenue. « Tiens, voilà Barracuda. Tu vas l'aimer dans ton cul, Barracuda, mais faut le mériter. » José s'est relevé un instant. Je me suis assise, épuisée par l'exercice. Myriam était tout bonnement en train de badigeonner de lubrifiant le trou de balle de José, qui souriait aux anges. Elle parlait comme une maman qui talque un bébé. « Mais oui, il va le prendre son gros god, le petit cochon. Il aime ça dans son petit cul. Il aime ça. » Elle a saisi Barracuda, et après avoir fait 2 ou 3 tentatives infructueuses et sans beaucoup de volonté, a enfilé sans problème l'énorme sextoy dans l'anus du garçon, qui a crié de volupté en accompagnant la pénétration. Cette action devait être encore insuffisante à Myriam, car pendant qu'elle commençait à faire aller et venir le priape dans le ventre de José, elle est revenue sur sa première idée. « Et maintenant, Delphine, fais beau cul !» Bocu, enlevrette et donne ton fion, vite, bien ouvert. Je me suis exécutée immédiatement avec une réelle appréhension, mais l'ordre ne souffrait pas de discussion. J'ai senti le sexe de José cogner contre mon anus au rythme où lui-même se faisait sodomiser. Puis peu à peu, je me suis relâchée. Les longs coups de langue dont j'avais bénéficié précédemment avaient tellement humidifié la zone que le gland du jeune garçon est entré pratiquement sans difficulté, à mon grand étonnement. Le reste a suivi, tandis que j'entendais se rapprocher de mes oreilles les ahannements de bûcheron de José qui, pris des deux côtés, ne contrôlait plus rien de la montée de son plaisir. Il gueulait comme un âne blessé dans la langue de ses premières amours. « Cache ma smoke de marido, toma da bocou !» Je branlais mon clitoris plus nerveusement et plus violemment que je ne l'avais jamais fait, bien certaine qu'à ce rythme, l'érection de mon fouteur ne durerait pas longtemps. De fait, alors que je parvenais à l'orgasme, je sentis une nouvelle effraction brûlante. Au moment d'éjaculer dans mon cul, José s'était collé à mes fesses dans une sorte de tétanie inédite, le figeant de longues secondes dans une posture de mannequin pris de tremblement. Moi-même d'abord inquiète de sentir cette queue si loin dans mes entrailles, je jouissais de sa présence, qui faisait durer étrangement le plaisir que j'avais tiré de mon clitoris. C'est chaud, hein, le goût du désamour de Delphine Solaire.